Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. On va vous raconter des histoires incroyables aujourd'hui. Nous irons en Hongrie, à Madagascar, en Martinique, sur les mers du monde et dans les effluves des parfums. C'est le grand retour de Jean-Christophe Ruffin avec un roman d'aventure époustouflant. L'académicien raconte le destin épique de Maurice-Auguste Beniowski qui deviendra roi de Madagascar dans un contexte absolument improbable. Le monde des parfums a sa revue, la revue Née. Diffusée en librairie, propose une analyse culturelle, sociologique et scientifique sur les parfums. Deux grands experts, Jean-Claude Héléna et Denise Beaulieu, sont sur notre plateau. Et vous, quel parfum mettez-vous ? Nous irons enfin en Martinique avec un miraculé. En mai 1902, l'éruption volcanique de la montagne Pelée avait fait 30 000 morts. Gaston Poléfa raconte une autre histoire vraie, celle de Louis-Auguste Siparis, un jeune homme qui incarne pour l'auteur la douleur de la condition des Noirs dans le monde.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Les quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie comme chaque semaine et nous accueillons un nouveau libraire. Comme chaque mois, vous le savez, nous donnons la parole à un libraire de la francophonie quelque part dans le monde et on part donc tout de suite à Bucarest en Roumanie. Bonjour Valentine Gigaudeau.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Kiralina, la seule librairie française de Roumanie, paraît-il. Que faites-vous dans cette librairie ? Décrivez-nous, tiens d'ailleurs, commençons par ça, décrivez-nous où vous êtes.
Alors la librairie, nous sommes dans le cœur historique de Bucarest, on est juste en face de l'ambassade de France. De nos fenêtres, on voit une très belle petite église orthodoxe avec un petit jardin. Mmh. On est une librairie de plus de 100 mètres carrés, je pense que nous sommes une des plus grandes librairies d'Europe de l'Est.
Ah oui.
Plus de 7000 références, on est une librairie généraliste avec une clientèle essentiellement roumaine. On vend de tout, des sciences humaines, de la littérature et surtout de la littérature jeunesse.
Très bien, voilà, une grande librairie qui porte la francophonie en Roumanie, c'est très important. Vous restez bien sûr avec nous tout au long de l'émission. Trois autres libraires sont en multiplex. Déborah Damblon représente la Belgique, vous la connaissez, libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. Dominique Bressou est en Suisse dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Et au Canada, c'est le sémillant Billy Robinson, libraire à Montréal, dans la librairie de Verdun. Bonjour tous les trois.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez l'air en pleine forme. Elle se marre, Dominique, comme d'habitude. Pleine de joie de vivre, hein, Dominique ?
N'est-ce pas ?
C'est très bien, restez comme ça. Bonjour Jean-Claude Héléna.
Bonjour.
Nous parlerons des odeurs et des parfums tout à l'heure. Vous êtes l'un des plus grands nez du monde. Un créateur de parfums, hein, j'entends dire, ne touchez pas votre nez. On commence toujours cette émission par une histoire personnelle de l'un de nos invités, anecdote que je découvre en même temps que tout le monde. Quelle histoire étonnante voulez-vous raconter autour des parfums et de votre vie de nez, Jean-Claude ?
Alors, en 1976, j'ai créé un parfum qui s'appelle First de Van Cleef & Arpels. Et dans First, en 1976, il y a une nouvelle matière première qui est utilisée dans la parfumerie, qui est le bourgeon de cassis. Le bourgeon de cassis, c'est un extrait de bourgeon de cassis. Auparavant, on avait fait ça. Donc, c'est utilisé dans ce parfum-là. Et c'est utilisé à forte dose. Et le parfum est lancé sur le marché. Le parfum a un fort succès. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, deux ans après, eh bien, le public réagit et puis ils disent « Mais vous savez, il y a une odeur de pipi de chat dans ce parfum. » En fait, c'est les clients, les consommateurs qui ont pris conscience, qui nous ont fait comprendre, à nous parfumeurs, que le bourgeon de cassis avait une odeur de pisse de chat.
Ah oui ? Mais ça tournait ou c'était à l'origine ?
Non, c'était à l'origine de l'odeur. Ah. Et on n'en avait pas conscience au départ, pour la bonne raison que le produit était tout nouveau. Nous, on était émerveillés devant cette odeur de bourgeon de cassis, de fruits rouges. C'était nouveau, on était émerveillés. Et donc, tout de suite, on met ça dans un parfum et ça fait le succès du parfum. Résultat, il a fallu rechanger les proportions du bourgeon de cassis dans le parfum, ce qui a été fait, et First a été un grand succès sur le marché, et il est toujours.
Voilà, il y a d'autres marques auxquelles vous avez collaboré, Cartier, notamment Hermès, parce qu'il ne faut pas citer qu'une seule marque, alors j'en cite plusieurs. Merci Jean-Claude Héléna, vous êtes à côté de Denise Beaulieu, autre experte, on la retrouvera tout à l'heure. Vous êtes tous les deux dans la librairie francophone cette semaine.
Tu vas à la habée, tu vas à la habée, Walare o ya,
yeah. Walare o ya.
Et bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Emmanuel.
Le tour du monde du roi Zibeline, c'est le titre de votre nouveau roman. C'est une histoire incroyable. L'histoire d'un roi de Madagascar qui a existé, Auguste Beniowski, qui n'était pas malgache et pourtant il est devenu roi presque sur un malentendu.
Oui, d'ailleurs, c'est pas en fait parce qu'il était roi ou qu'il a été roi ou qu'il s'est prétendu roi qu'il est le plus intéressant. C'est justement parce qu'il s'est retourné en quelque sorte contre les Français qu'il avait envoyé là-bas et qu'il est devenu, au fond, l'apôtre très très tôt de l'indépendance malgache. C'est ça qui le rend intéressant et c'est ça qui fait que les Malgaches se souviennent de lui et lui consacrent encore des rues à Tananarive ou dans d'autres villes du pays.
Mais il arrive au trône grâce à une vieille femme qu'il a sauvée, on va dire, de l'esclavage, enfin qu'il ramène d'Île-de-France. Et qui arrive en disant, elle, que c'est le descendant de Ramini et donc le descendant de l'empereur. C'est ça. Il laisse le doute s'installer parce que c'est complètement faux. C'est comme ça qu'il arrive à convaincre tout le monde.
C'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est que cet homme qui est né donc en Hongrie, qui a été déporté en Russie, en Sibérie, qui s'est évadé, qui a traversé le Japon, la Chine, etc., qui est arrivé en France, il n'est pas du tout, évidemment, le bienvenu à Madagascar quand il arrive. Et les Malgaches commencent par lui faire la guerre, bien entendu, et le prennent pour un envahisseur d'une certaine façon. Et puis, providentiellement, il y a un tournant dans cette histoire, c'est effectivement cette prophétie d'une vieille dame qui dit « Mais moi j'ai été déporté en quelque sorte à la Réunion avec la fille de Ramini et vous êtes le fils de cet empereur. » Voilà. Et alors il commence par dire « Mais non, c'est pas vrai. » Puis il se dit « Mais au fond, c'est peut-être le moyen tout simplement de faire cesser la guerre. » Et les Malgaches, en effet, à ce moment-là, changent d'attitude par rapport à lui.
Voilà, c'est absolument incroyable. Auguste et sa femme, dans votre roman, vont voir Benjamin Franklin. Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, qui est vieillissant, il est mis à l'écart aussi, il s'ennuie beaucoup, et quand le couple arrive pour lui raconter cette histoire, il est dubitatif.
Oui, parce que ce qui est incroyable dans cette vie de Auguste Beniowski et de sa femme, c'est qu'ils ont traversé le monde entier. Et alors j'ai commencé le récit en quelque sorte par la fin, puisque après les déconvenues qu'il a eues avec les Français, il est allé demander l'aide des Américains, de George Washington, et Franklin, il l'a surtout connu en France d'ailleurs. Alors Franklin, vous savez que quand il est rentré, après avoir été une sorte d'ambassadeur en France, il est rentré aux États-Unis, il pensait qu'il serait très bien accueilli, puis finalement on ne s'est pas tellement occupé de lui, donc il est vieux, il a mal partout, il s'ennuie. Ouais. Et tout à coup, il voit arriver ce couple étonnant. Et ce couple commence à lui raconter son histoire. Cette femme qui a un parfum, justement, qui a été probablement créée par Jean-Claude Elena avant la lettre. Et alors, ça l'envoûte.
Enfin, on est au XVIIIe siècle, là.
Oui, mais enfin, on ne sait jamais.
Il n'est pas si vieux, Jean-Claude.
Voilà, et ça l'envoûte. Et c'est un peu les mille et une nuits. C'est tout l'esprit du XVIIIe siècle. Et le XVIIIe siècle a adoré ses contes. Ouais, c'est-à-dire que ce soit les lettres persanes, les contes de Voltaire, les mille et une nuits. C'est dans cette tradition que se situe
C'est ça, parce que Franklin leur dit, tant que vous allez réussir à me passionner, vous pouvez venir, revenir chaque jour pour me raconter cette histoire.
Ils viennent tous les jours. En fait, ils viennent lui demander quelque chose. Mais avant de lui demander ce qu'ils veulent, c'est-à-dire son aide, son appui, l'appui de l'Amérique pour justement venir au secours de Madagascar contre les Français, avant de pouvoir lui dire ça, il faut qu'il lui explique cette histoire qui, je le rappelle, est une histoire vraie.
Auguste Beniowski qui va parcourir le monde, participer à des guerres. Il sera prisonnier, il s'enfuira, puis sera déporté en Sibérie. Un an de voyage que vous racontez dans le livre, dans un froid glacial, mais aussi dans des chaleurs étouffantes. Il assiste à toutes les saisons, il survit à tout, cet homme-là. On va donner la parole à l'un de nos libraires, Jean-Christophe Ruffin. Les quatre ont lu votre roman et on commence avec La vie du Canada, représenté aujourd'hui par Billy Robinson.
Écoutez-moi, dès les premières pages, j'ai été intrigué par ce récit qui se révèle comme un grand roman d'aventure. Cette histoire captivante est remplie de personnages charismatiques et je me suis senti grisé et emporté par ce souffle et par l'énergie à l'intérieur des pages. C'est un roman jubilatoire et moderne et leurs aventures en inspireront plus d'un, j'en suis sûr.
Voilà, premier commentaire.
Merci.
Positif, il est content Jean-Christophe. Et effectivement, c'est un roman très dense, très foisonnant, qui s'appuie sur l'histoire et aussi sur des écrits. On va justement écouter le son du monde de la semaine. Le principe, une musique habillée d'une voix. On a retrouvé les mémoires d'Auguste Beniowski. Elles ont été publiées en 1790, après sa mort, dans la langue d'origine. C'est le texte qu'on a retrouvé. Et Jean-Christophe Ruffin, vous avez accepté d'en lire un extrait sur la musique malgache d'Eric Manana et du collectif Madagascar All Stars. Pule pula tila takanda ni je, tumani ni tadi fa umane, balewa vita di firu take. Rise on Kenya.
Alors, j'annonçais mon départ pour Madagascar et je fis proclamer que tous les volontaires et surtout les artisans qui étaient disposés à m'accompagner eussent à se présenter et à proposer leurs conditions. Cette déclaration attira un grand concours de postulants. Mais, comme j'ignorais s'ils étaient libres et que je voulais éviter le plus léger débat, je m'adressais à messieurs de Ternay et Maillard. Le premier me dit qu'il ne pouvait donner à personne la permission de quitter l'île. Monsieur Maillard alla plus loin. Il assura qu'il s'opposerait ouvertement au départ de ceux qui voudraient me suivre à Madagascar, parce que ce serait les envoyer à la boucherie.
Kazi lauza namyake Fansi pa manarake Rabo misharzan fananane.
Alors c'est très compliqué, hein, effectivement, de partir à Madagascar pour lui. Vous l'avez illustré avec cet extrait parce que Auguste Benyovski vise Formose au départ, Taïwan, avant même Madagascar. Alors il le dit au roi Louis XV, qui n'est pas intéressé par Formose. On lui propose, enfin en tout cas le roi lui propose Madagascar pour une mission au nom du roi. C'est un lot de consolation, c'est une façon de l'occuper en quelque sorte.
C'est une manière de s'en débarrasser parce qu'en réalité, il a vendu en quelque sorte au roi de France les secrets militaire qu'il avait rapporté du Kamtchatka et de Sibérie, parce que c'était une zone stratégique à l'époque. Les Anglais, les Espagnols, tout le monde s'intéressait à cette zone et lui, il la connaissait. Il est un des premiers à avoir navigué jusqu'au détroit de Bering et tout ça. Donc, il a vendu ça. Il fallait le récompenser, mais en même temps, Formose, tous ces coins-là, c'était trop important, trop stratégique pour la France pour le confier à Polonais, Hongrois, un peu bagnards, évadés. Alors, on l'a envoyé à Madagascar. Mais Madagascar, évidemment, ça faisait l'affaire de personne, parce que Madagascar servait de réserve d'esclaves pour les îles de France et de Bourbon, c'est-à-dire la Réunion et Maurice, qui étaient en face, et où étaient ces deux gouverneurs dont on cite le nom dans le texte, M. Ternay et M. Maillard.
Donc il ne fallait pas y établir un établissement, comme on disait à l'époque, ou une colonie, ça n'avait pas d'intérêt.
Non, ce que voulaient les Français à ce moment-là, c'était garder ce territoire comme une piochée en quelque sorte là-dedans, ce dont ils avaient besoin. Mais Madagascar restait pour eux une zone vierge, ils n'avaient pas du tout envie qu'on vienne troubler leur petit trafic, qui était des trafics privés, très juteux, et qui concernaient surtout donc, l'esclavage et puis les produits du sol et le riz aussi.
Cette histoire d'Auguste Benyovski est un roman d'aventure. De sa jeunesse à son accès au trône de Madagascar, tout paraît improbable. On ne peut pas tout raconter parce que c'est très dense, Jean-Christophe Ruffin, mais il y a un personnage qui va jouer un rôle essentiel. C'est un précepteur, le français Bachelet, qui va éduquer Auguste en Hongrie et il va lui inculquer toute la notion du siècle des Lumières avec les philosophes, avec Voltaire, Diderot, Montesquieu, qui vont être la base de son éducation. Et sans cette base-là, jamais il ne serait arrivé à la cour de Versailles.
Non, c'est ce qui fait de lui un personnage double, c'est-à-dire qu'à la fois il est militaire, fils héritier de cette tradition magyare de soldat, en fin de compte, un peu rustre, mais grâce à ce précepteur, il est aussi en filiation avec ce qui se passe à Paris à ce moment-là et qui est d'une grande importance, c'est-à-dire l'œuvre de ces philosophes qui n'a pas encore donné lieu à la Révolution française, on est avant, on est en 1770 à peu près, mais qui est déjà célèbre en Europe, et il y a tout un tas comme ça de personnages qui sont souvent des prêtres, des froqués, un peu compagnons de philosophes, qui cherchent du boulot et qui se retrouvent précepteurs. Voilà, et c'est ce qui se passe avec ce précepteur qui lui apporte ces rudiments de philosophie qui, en fait, d'Auguste, le porteur d'un autre idéal, donc voilà, à Madagascar en particulier.
Mais c'est-à-dire que quand il arrive à Madagascar, quand il arrive à pacifier l'île, il va s'inspirer des idées de Montesquieu. Il va carrément le porter, ça, il va le revendiquer.
C'est ça, et c'est ce qui fera qu'un jour, il ira voir les Américains, parce qu'au fond, les États-Unis sont les premiers héritiers des Lumières. On oublie un peu trop, on rapporte tout à la Révolution française, mais au fond, le premier État qui s'est fondé, qui s'est créé sur ses bases, c'est les États-Unis. Et en particulier avec des gens comme Benjamin Franklin, dont on connaît toute l'implication, leur proximité avec Voltaire, etc. Donc lui, en effet, à Madagascar, il aura les deux faces. Il pourra donner une carrière à ces deux aspects. D'abord comme un militaire, il va se battre, et puis ensuite comme, au fond, un homme des Lumières.
Un intellectuel, oui. Trois autres libraires ont lu votre roman, Jean-Christophe. Suisse, Belgique ou Roumanie. On commence par qui ?
Ah ben, je sais pas, on va dire, je sais pas.
Alors, Roumanie, vous aurez les trois.
Roumanie, puisqu'elle est nouvelle venue.
Allez, Valentine Gigaudeau, c'est à vous, à Bucarest.
Ah, ça a été vraiment pour moi un vrai coup de cœur. Je l'ai commencé, je n'ai pas réussi à le lâcher. Je l'ai lu pendant tout le week-end. C'est vraiment un très beau roman avec une écriture forte. J'étais particulièrement touchée par le personnage féminin d'Afanasy. C'est vraiment un personnage comme Jean-Christophe Ruffin sait les faire, c'est-à-dire des femmes qui révèlent les hommes. Et c'est vrai que Auguste est vraiment très fort grâce à sa femme. Et ce roman raconté à double voix, comme ça, tout au long, fait que on change de point de vue sur cette épopée absolument fantastique. C'est vraiment un livre que je recommanderais les yeux fermés à mes clients.
Très bien. Voilà, vous avez séduit la Roumanie. Enfin, en tout cas, Valentine en Roumanie. C'est vrai que c'est une histoire féministe aussi, hein, parce que cette femme, elle résiste. Elle doit se faire une place auprès de lui. Hein. Il n'est pas commode, cet homme-là. C'est un guerrier. Il est un peu misogyne. Enfin, à l'époque, en même temps, ils étaient un peu tous misogynes. Mais c'est vrai que c'est dur pour elle pour exister.
Bon, d'abord, il a raconté ses mémoires. Donc, moi, je ne voulais pas les paraphraser.
Bien sûr.
Puis, je voulais que ce récit, justement, conformément à l'esprit du XVIIIe siècle, soit dans la tradition de la conversation. Qui est quand même, voilà, avec ses deux voix.
Et un récit alterné, oui. Déborah Damblon, en Belgique, êtes-vous d'accord avec votre collègue roumaine ?
Oh oui, je suis d'accord, parce que vous m'avez fait plaisir, monsieur Ruffin, vraiment plaisir. Mais vous voyez, un plaisir un peu nostalgique aussi, de me rappeler le jour où je vous ai découvert pour la première fois en lisant l'Abyssin. Et j'ai retrouvé tout à fait intacte la passion que j'avais eue à l'époque de me plonger dans vos histoires, qui sont toujours aussi efficaces, toujours aussi trépidantes. Mais cette fois-ci, votre récit m'a semblé aussi plus sombre et un peu, enfin beaucoup même, plus profond, plus dense. Et j'ai vraiment mesuré avec cette lecture le plaisir que peut avoir un lecteur à suivre un auteur sur le long terme et vraiment à cheminer avec lui.
Voilà, c'est une déclaration d'amour, hein. On s'en sort plus, Jean-Christophe Ruffin.
Non mais c'est aussi un rappel du temps qui passe.
Hein. Attention, suspense, dernier avis. Dominique Bressou, vous avez détesté ce roman, paraît-il.
Mais pas du tout.
Allez-y.
Non. Alors en fait, j'ai éprouvé beaucoup de bonheur à lire ce roman. L'impression d'écouter un bon conteur au coin du feu, c'était magnifique. Mais j'ai regretté qu'une seule chose, c'était le déséquilibre entre les quelques lignes écrites sur les sentiments du héros, toujours dans le factuel, et les dizaines de pages où s'étalait l'ingénuité de l'héroïne. Mais bon, en fait, on est au XVIIIe siècle et dans votre roman, donc peut-être que les hommes ne connaissaient pas les sentiments ou les exprimaient pas.
Je pense que Benioffsky les exprimait peu, si on en juge par ses mémoires, qui justement font abstraction complètement du sentiment. Et j'en ai rajouté déjà beaucoup, c'est-à-dire qu'en donnant en effet cet éclairage par sa femme, voilà, je préférais la faire parler elle que de le faire parler lui maladroitement de choses dont il n'a pas parlé dans ses mémoires.
Bon, vous avez séduit nos quatre libraires. Félicitations, Jean-Christophe. Alors, c'est vrai qu'Auguste va parcourir le monde comme ça pendant presque 9 ans. Il va quitter Madagascar et il va chercher des capitaux à travers le monde. Oui. C'est pour ça qu'il arrive chez les Américains. C'est pour ça que Franklin le reçoit, enfin en tout cas qu'il veut être entendu par Franklin. Et à partir de ce moment-là, il va demander quelque chose aux Américains. Mais les Américains, avec Jefferson, ils se disent « on ne va pas s'encombrer de l'histoire de Madagascar et se mettre les Français à dos pour une île ». Donc, personne ne les aide.
Mais c'est un peu le débat qu'il y a eu en Union soviétique après la Révolution. Est-ce qu'il fallait, entre Lénine et Trotsky, est-ce qu'il fallait continuer à faire la Révolution dans tout le monde ou bien dans un seul pays ? Ben, les Américains, au moment de la Révolution américaine, l'indépendance américaine, ont eu un peu ce dilemme. C'est-à-dire, est-ce qu'on consolide chez nous ce qu'on a acquis, mais puis ce n'était pas encore tout à fait acquis, il y avait la guerre avec les Anglais, ou est-ce qu'effectivement on sert de modèle, de phare, comme dirait Benjamin Franklin, pour le monde ? Et en effet, c'est la première option qui sera choisie, c'est-à-dire que les Américains vont aider un tout petit peu Benioffsky. Ils vont lui donner 2 bateaux, voilà, qui vont d'ailleurs s'échouer pour quand il retourne.
Encore une aventure incroyable.
Oui, parce qu'ils font un naufrage, on ne sait pas trop pourquoi, ils se sont gourés, enfin bref, ils se sont retrouvés sur une espèce d'île. Enfin, ils sont ensablés, tout simplement. Voilà, et puis, finalement, quand il arrive à Madagascar, ben, tout de suite, il descend à terre, et puis il y a des coups de feu qui sont tirés.
Il se fait attaquer,
ouais. Et les Américains prennent peur, et s'en vont, et le laissent tout seul. Et le plus merveilleux, c'est qu'après 9 ans d'absence, les Malgaches le retrouvent, le reconnaissent, et le suivent, et il reconstruit autour de lui, sans aucun moyen, une armée pour aller se battre contre les Français. Et cette fin est assez équilibrée finalement. C'est pas ruse que les Français ont eu sa peau, mais on peut imaginer un autre destin pour cette île, s'il avait pu combattre librement.
Oui, parce qu'il est mort jeune, hein, à 39 ans, et comme vous le dites dans cette postface qui raconte tout, c'est très bien fait jusqu'au bout votre livre, Jean-Christophe, je m'associe au libraire pour le coup, parce que vous racontez, ben voilà, qu'il voit en lui l'apôtre de l'unité de leur île, le chantre de son indépendance. Et il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, une grande rue à Antananarivo qui porte son nom. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin.
Merci.
Merci infiniment. Le Tour du Monde du Roi Zibeline est paru aux éditions Gallimard. C'est un grand roman d'aventure, parfaitement écrit, parfaitement maîtrisé. Si vous aimez les fresques historiques, ce roman va vous passionner. Il y avait longtemps que l'on n'avait pas lu un tel livre aussi réussi dans le genre. Voilà, on arrête. Pardon ?
Non, vous allez me faire rougir. Mais...
Et aujourd'hui en France, en Belgique et en Suisse, c'est le Disquaire Day, la journée des disquaires indépendants. Dans cette émission, nous défendons depuis toujours les librairies indépendantes. Alors, bien sûr, nous nous associons à la défense des disquaires et à cet événement, le jour du disquaire, dont France Inter est partenaire. Et voici le tube francophone avec une reprise d'un standard de Maxime Le Forestier, interprété par un célèbre groupe. Je vous laisse deviner, c'est assez facile. Merci à vous d'écouter la librairie francophone.
Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
No rincones guanico azar. No rincones guanico azar.
Y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.
No rincones guanico azar. No rincones guanico azar.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire.
No rincones guanico azar.
Né quelque part, chanson de Maxime Le Forestier, interprétée par qui? Vous avez trouvé en plateau? Non, Jean-Claude Elena, Jean-Christophe Ruffin, Gaston Poléfa, ils n'ont pas écouté, ils parlaient avec moi en fait. Je donne des coulisses. Le groupe Trio que l'on salue au passage.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, l'occasion pour les libraires de vous présenter leurs coups de gueule et leurs coups de cœur. La semaine dernière, il n'y avait que des coups de cœur, suspense donc aujourd'hui. Et on commence avec Déborah Damblon en Belgique.
Bah, un coup de gueule, hein, Emmanuel.
Eh ben, parfait.
Mais pour une fois, et ce n'est pas mon habitude, je vais râler sur nos lecteurs. Vous voyez, nos clients de librairie.
Ah, vous allez râler sur les clients, d'accord.
Ouais. Eh ben, pour une fois, j'ai le droit.
Bien sûr,
ça m'engage que vous. Carrément. Quand ils viennent précisément chercher des livres pour les enfants. Pas tous les clients, hein, bien sûr. Il y en a qui sont fabuleux et qui sont parfaits, mais certains, à certains. J'ai envie de dire, s'il vous plaît, faites-nous confiance. Laissez-nous vous conseiller. Et puis, cessez de vouloir faire de l'éducatif à tout prix. Et puis, par pitié, par pitié, n'essayez pas de faire lire à vos petits chéris ce qui vous a plu à vous quand vous étiez petit, parce que c'était il y a très très longtemps, et c'est des livres qui n'ont pas forcément très bien survécu.
Voilà, il faut faire confiance aux libraires, vous avez raison. Merci, bonne chance et bon courage Déborah pour la suite. Ce week-end, c'est d'ailleurs la fête des librairies indépendantes dans plusieurs pays francophones. Un clin d'œil amical aux organisateurs de cet événement, et la fête des libraires, ici, c'est toutes les semaines. N'est-ce pas, Billy Robinson, au Canada ? On file dans le rayon des romans contemporains avec vous, avec un coup de cœur, je crois.
Oui, un immense coup de cœur, en fait. Je vous propose le troisième volet de la trilogie « Abattre la bête » de David Goudreau. Avec son langage expressif, coloré et imagé, David Goudreau, romancier, poète et slameur, met le point final à l'histoire de ce jeune homme que l'on déteste aimer. C'est un roman peu commun à la proposition hasardeuse. C'est écrit avec une grande sensibilité. On est ému. Il me manque là, déjà, je vous le dis, et il sera assurément pour des milliers de lecteurs.
« Abattre la bête » aux éditions Stanquet.
Qu'est-ce que tu as fait ?
Vous m'avez dit que je pourrais capturer les odeurs de toutes les choses. Qu'est-ce que vous sentez ?
Rien. Je ne sens pas d'odeur.
Basta ! Mais ça fait sentir le cuivre !
Ça suffit ! Tu as vraiment essayé de distiller le parfum du cuivre, du fer, du verre, du cuivre.
Et bonjour Denise Beaulieu.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes avec Jean-Claude Elena pour cette revue née qui sort partout en librairie avec cet extrait, vous l'avez reconnu, du film Le Parfum, adapté du livre de Susskind. Alors dans cette revue, il est question des odeurs, du rôle du parfum dans la société, des aspects scientifiques. Et Jean-Claude, vous qui avez créé de très grands parfums connus de tous, chez Hermès, Cartier, Van Cleef & Arpels, le parfum c'est un artifice qui sert à quoi ? À séduire seulement ou...
Ah, d'une part à séduire, c'est évident que c'est un artifice pour séduire, et en ce sens-là, c'est un moyen pour se sentir bien dans sa peau, et à la fois pour être reconnu, et à la fois pour se reconnaître. Donc c'est un artifice complexe, et qui participe à la vie de tous les jours. C'est-à-dire l'odeur dans le rapport à l'autre est quelque chose de très très important. Mmh. Je vous choisis parce que votre odeur me plaît, votre odeur me séduit, et votre odeur... me ressemble.
Vous avez écrit dans cette revue une lettre à un jeune parfumeur à qui vous dites « La finalité n'est pas de reproduire le réel, mais d'inventer une réalité. » Et c'est ça le plus difficile, c'est donner vie à un parfum.
Je pourrais pas rajouter d'autres mots. Oui, c'est d'inventer une autre réalité, mais votre propre réalité, parce que inventer la nature, c'est sans intérêt. Je veux dire, la nature est parfaite, elle est comme ça, et on la prend comme elle est. Donc,
on ne reproduit pas l'odeur de l'herbe coupée, par exemple. On en fait autre chose.
Reproduire l'odeur de l'herbe n'a pas grand intérêt, mis à part montrer qu'on est capable de le faire, mais rajouter quelque chose, se mettre de soi-même dans l'herbe verte. Oui, alors là, oui, ça vaut la peine.
Denise Beaulieu, vous êtes québécoise, vous vivez en France, vous êtes experte en parfum, mais aussi traductrice. Oui. On vous doit la version française du livre 50 nuances de grès. Et du coup, dans cette revue, vous avez contribué au dossier Le sexe des parfums, parce que 50 nuances de grès donne souvent beaucoup d'idées sexuelles.
L'un n'étant pas forcément lié à l'autre.
Hein. Non, bien sûr. Mais bon, voilà.
Je suis traductrice d'un côté et plume parfum de l'autre.
Le parfum a-t-il un genre, Denise ? C'est un peu ça la question.
Mais curieusement, oui, il a un genre parce que en Occident, on attribue certaines notes olfactives, par exemple les fleurs ou aujourd'hui les odeurs très sucrées, les espèces d'odeurs très pralinées qu'on sent partout. On a pratiquement des caries aux molaires rien qu'à respirer. Et puis du côté masculin, plutôt des notes boisées, aromatiques comme la lavande. Ce n'est pas le cas dans toutes les cultures. Donc déjà, le genre des notes olfactives est culturel.
D'accord. Mais il y a des parfums mixtes quand même. Certains ont essayé. Calvin Klein, par exemple,
avec CK1. Avec CK1, qui est un cas tout à fait intéressant parce que c'est le plus petit dénominateur commun du sang bon. C'est l'odeur du thé vert, de la lessive propre, de l'eau de Cologne. Et si vous regardez les campagnes qui étaient tout à fait intéressantes, on s'adressait à un groupe de jeunes qui était un continuum entre toutes les identités de genre, dans toutes les origines finalement, toutes les couleurs de peau, tous les métissages, on s'adressait vraiment à tout le monde.
Avec une ambiguïté sexuelle alors. Le parfum génère une ambiguïté sexuelle ?
Moi je dirais une fluidité, hein. C'est un fluide assez magique le parfum. Ouais. Et finalement, quand vous regardez par exemple les années 30 ou les années 20, quand les femmes se sont émancipées, on leur a donné pour les garçons, on leur a donné des notes de cuir. Le cuir était associé à des activités très masculines, la chasse, les militaires, les fauteuils club dans les clubs pour gentlemen, l'aviation aussi, l'automobilisme, on portait des costumes, des habits en cuir. Eh ben, les femmes ont détourné, notamment grâce à Gabrielle Chanel, avec Cuir de Russie, 1924, ont détourné cette odeur totalement dédiée aux hommes pour se l'approprier.
Et on voit dans la revue d'ailleurs qu'il y a des parfums rassurants, des odeurs rassurantes. Le parfum du neuf dans une voiture, par exemple, l'odeur du cuir. Ça aussi, ce sont des parfums qui rassurent, ce sont des parfums qui génèrent aussi des achats, qui nous emmènent quelque part, qui nous font voyager. C'est quoi l'idée ?
À chaque fois, un parfum, c'est-à-dire qu'il y a les choses qu'on rajoute à, par exemple, pour vendre une voiture neuve. L'odeur de la voiture neuve, ça, c'est du mécanisme d'achat, c'est du pavlovien. Maintenant, quand on parle du parfum, le parfum, c'est une fenêtre sur le monde.
Jean-Claude Héléna, un homme parfumé est-il viril ?
Mais oui.
Vous réfléchissez quand même.
Non, vous faites réfléchir. Mais c'était le mot viril. Je veux dire, ça n'enlève rien et ça ne rajoute que de la séduction. Oui.
Alors je dis ça parce que c'est dans la revue, évidemment. On parle des odeurs du corps. Il y a des incompatibilités sexuelles liées à l'odeur du corps. On a tous une odeur et c'est cela qui nous lie entre nous. Sur le plan amoureux, sur le plan sexuel, sur le plan amical, tout est question d'odeur. On se renifle comme des animaux.
Absolument, ce qui est très très déconcertant. Par exemple, je vais faire un petit coucou à quelqu'un qui m'écoute peut-être à Montréal, et qui est un ex, qui est mon premier ex, de quand je suis partie.
Ah oui. Mais comment s'appelle-t-il ?
Alain.
Alain.
Je ne dirai pas plus.
Alors Alain, allons-y.
Alain,
ça va être sympa pour
Alain
vous.
Alain qui sentait exactement la même chose quand je l'ai retrouvé que quand on sortait ensemble et qu'on avait 19 ou 20 ans. C'est bouleversant. Et c'était lui, c'était pas son parfum. C'était lui.
Ouais, Jean-Christophe Ruffin, oui.
Non.
Il y a des odeurs qui vous rebutent chez l'autre, c'est arrivé ça ?
Oh ben, vous savez, je suis médecin moi à l'origine,
oui,
et je veux dire dans les salles d'urgence, on n'a pas toujours, c'est pas toujours des parfums qu'on a, c'est un peu des odeurs d'appel. Ouais. Je repensais aux conquêtes au XVIIIe siècle, à tous ces explorateurs qui sont partis. Ils sont partis en grande partie pour chercher des épices et des parfums. Et ce qui est incroyable, c'est les choses extraordinaires qui ont été faites. Par exemple, à Madagascar, il y a la vanille, bien entendu, le giroflier. J'ai vu beaucoup de giroflier. Imaginez vraiment les trajets qui étaient faits, les risques qui étaient pris pour aller se procurer ça. Donc finalement, c'est une petite chose, mais qu'on était prêt à payer de sa vie, presque.
Comment fait-on justement, Jean-Claude Héléna, pour concevoir un parfum qui traverse les époques? Des grandes marques ont réussi, Chanel, vous citiez, Denise tout à l'heure, Dior, Lancôme, Saint-Laurent, Mugler, ils ont réussi. Vous avez réussi avec Cartier, avec Hermès.
J'ai pas de recette. J'ai pas de recette, mis à part la sincérité du propos, c'est-à-dire que, en fait, quand je construis des parfums, quand je crée des parfums, je les construis pour moi-même. D'abord, je les crée pour moi-même. Et ensuite, je les offre, et c'est la seule démarche que j'ai. Il y a bien un désir, quelque part, de dire, si ça peut durer dans le temps, oui. C'était aller au-delà de moi-même, oui, il y a quelque chose comme ça derrière, mais il n'y a pas de recette pour ça. Je veux dire, la recette à ne pas faire, c'est de suivre le marché, c'est de copier le marché. Parce que si vous copiez le marché, si vous faites ce que font les autres, vous ne serez jamais suivi, et vous allez disparaître.
Il y a des origines religieuses au parfum, Denise Beaulieu. On dit d'ailleurs qu'à l'origine, on se mettait du parfum pour camoufler des odeurs, dans un esprit de purification aussi.
Disons que l'origine religieuse, elle vient surtout du fait, il y a deux points. Le parfum, à l'origine, on le brûlait ou on le faisait macérer dans des corps gras, parce qu'on ne connaissait pas la distillation, pour qu'il relâche ses principes odorants. Les huiles, on en enduisait les statues en Égypte ancienne pour faire vivre le dieu. Le dieu, c'était un parfumé. Et le parfum, d'où ça vient ? De perfumare, et par la fumée. C'était l'encens, la première lettre de l'alphabet du parfum. C'est ce que l'homme voulait dire au dieu.
Et Baudelaire, Flaubert aussi sont cités dans la revue Né. Ils ont fait du parfum presque des personnages. Il y a un article à ce propos. C'est un remède au spleen, le parfum, Jean-Claude Héléna.
Ah, tout à fait, absolument. Oui. Moi, ce qui m'émerveille, c'est d'écouter les autres parler de parfums ou parler de mes parfums. Ils me racontent des choses qui m'émerveillent, absolument.
Dans la lettre à un jeune parfumeur, vous écrivez « Quand tu juges un parfum, attarde-toi sur l'histoire qu'il délivre ». C'est ça le conseil que vous donnez aux auditeurs, à nous tous, pour choisir un parfum ?
Oui, absolument.
C'est une question d'histoire.
J'aurais pu dire la même chose pour un vin ou pour un ouais. mais, attarde-toi sur l'histoire qu'il délivre. Et alors là, d'un seul coup, on prend plaisir à manger, on prend plaisir à boire, on prend plaisir à sentir. Oui.
Que mettez-vous comme parfum, vous ?
Je ne me parfume pas.
Ah bon ? Ah oui, vous ne pouvez pas. Sinon,
non,
ça...
c'est pas que je ne peux pas, c'est que le fait même de me parfumer va me gêner dans ce que je fais.
Et oui, voilà. Ouais, ouais.
Et parce que je vais sentir ce que je porte
et, oui.
et va déranger ce que je suis en train de faire. Ouais. Donc je ne me parfume pas.
Mais vous reniflez les autres.
Mais je renifle les autres.
Denise Beaulieu.
Ce que je porte comme
oui,
parfum.
Oui, on a cité tellement de marques, on peut y aller là.
Alors, je vais la jouer hipster. Hein. Je porte un truc dont vous n'avez sans doute pas entendu parler qui s'appelle Peau d'ailleurs. Peau d'ailleurs, c'est une sorte de parfum extraterrestre fait par une amie à moi qui s'appelle Annick Ménardeau, grand parfumeur.
D'accord.
Et qui est pour Philippe Starck.
Très bien. Bonjour
vous
Gaston Pollefort. Bonjour. Vous parfumez, vous ?
Oui, je porte le parfum de tout ce qui est humain.
Très bien, ça commence bien. On va faire un entretien avec vous, très humaniste. Merci beaucoup Jean-Claude Elena, merci Denise Beaulieu. Merci. La revue Née, revue olfactive est disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est un projet osé, mais très bien fait et très intéressant. Merci à vous. Dans cette plus grande librairie du monde, on part dans le rayon des romans en Roumanie avec Valentine Gigaudot. Un coup de cœur à Bucarest, Valentine.
Oui, en effet, un vrai coup de cœur pour la jeune création littéraire roumaine en langue française, portée par des jeunes femmes talentueuses telles que Liliana Lazar ou Irina Teodorescu. Ces écrivaines qui sont nées en Roumanie ont fait le choix de la langue française pour créer. Elles écrivent bien entendu sur la Roumanie, sa nature, ses traditions, ses croyances. Elles ont toutes les deux une écriture originale, forte, pétillante et ensorcelante. Ces livres sont des vrais cadeaux pour nous, la librairie française de Roumanie, parce que il est vrai que pour nos clients, ça leur donne un regard neuf sur le pays.
Et Liliana Lazar, qui avait reçu le prix des 5 continents de la francophonie en 2010 pour Terre des Affranchis. On en avait parlé d'ailleurs ici, c'était son premier roman, je crois. Merci beaucoup, Valentine. Et pour la Suisse, toc, 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 coup de gueule ou coup de cœur, Dominique Bressoux.
Un coup de gueule. C'est un coup de gueule dû à l'impression fugace que beaucoup d'auteurs en Suisse centrent leurs livres sur la mort d'un enfant, d'une grand-mère, d'une sœur, mais je ne citerai pas de titre. Hein. Et alors là, je m'interroge, parce que dans notre pays où la tolérance envers les autres n'est pas un vain mot, où beaucoup de conditions sont réunies pour vivre heureux, pourquoi si peu de livres sur l'ouverture aux autres, la joie, l'amour ? Mon vœu, c'est que mes compatriotes écrivent de belles histoires célébrant la vie.
Voilà, et pas de livres sinistres, c'est vrai, c'est un peu dur. Il y a des périodes comme ça, des vagues, ça arrive. Merci Dominique. Nous serons en Suisse, dites donc, la semaine prochaine, au Salon du Livre de Genève, en public, avec un plateau exceptionnel. Soyez là, à l'écoute, mais aussi sur place, si vous avez l'occasion. Enregistrement vendredi à 14h30, on vous attend nombreux. La librairie francophone avec Jean-Christophe Ruffin, Jean-Claude Elena, Denise Beaulieu et Gaston Pollefort. Alors Gaston Paul, on part sur une autre île, la Martinique, avec le miraculé de Saint-Pierre, le seul survivant de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. C'est un vrai miracle ça ?
Absolument, c'est un miracle, d'autant plus miraculeux qu'il m'a été révélé par un alchimiste. Figurez-vous, la France a encore des alchimistes et en Alsace, on en a un. Que j'appelle Georges Aurac dans le roman, qui, après avoir lu mon précédent roman, Rendez-vous avec l'heure qui blesse, me dit « Il y a encore quelque chose à faire ». J'ai découvert dans mon enfance l'histoire de Louis-Auguste Siparis et il n'y a que toi qui puisse encore nous révéler quelque chose de l'humain à travers ce personnage.
On va en parler, le miraculé de Saint-Pierre en Martinique après une nouveauté musicale et un événement, c'est le retour de la chanteuse Camille dans la librairie francophone. C'est le tout nouveau Camille Fontaine de Lait sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Gaston Poléfa est dans la librairie pour son roman Le Miraculé de Saint-Pierre paru chez Gallimard. Alors vous racontez dans cette histoire plusieurs histoires. Hein, celle de Séraphine, jeune femme d'origine martiniquaise d'aujourd'hui. Et puis l'incroyable destin de Louis-Auguste Siparis, seul survivant de l'éruption d'un volcan en Martinique. Il était au cachot à ce moment-là car il avait blessé sa petite amie lors d'une beuverie. On va revenir sur ce personnage un peu particulier. On est en 1902, il a 27 ans, c'est un homme tourmenté, violent, ivrogne, coureur de jupons. Il boit très jeune.
Il boit beaucoup. Ouais. Il est à l'image de Saint-Pierre. Vous savez, Saint-Pierre de cette époque, c'est Sodome et Gomorre. C'est l'excès en tout, c'est la débauche. Et puis vous avez ce petit personnage qui est l'image même de cette île qui sent déjà la décadence avant la lettre. Et puis on arrive le 8 mai, c'est le jour de l'Ascension. Et ce jour, la montagne pelée se met à vomir des cendres. Les cendres, c'est la mort. Et ce personnage qui était pauvre, mais qui était simplement celui qui voulait vivre dans tous ses états, oublié dans un cachot. 30 000 morts lors de cette éruption, et le seul qui va survivre comme un Moïse sauvé des laves, c'est Louis-Auguste Séparis.
Le seul, il y en aurait deux autres. Hein. Quand on fait des recherches, un jeune cordonnier qui était dans une maison avec de très grosses pierres un peu en marge de la coulée de lave, et puis une gamine qui aurait pris une barque et qu'on a retrouvée en mer.
Je pense que le seul qui raconte vraiment l'histoire de façon symbolique, c'est Séparis.
Surtout que c'est que sa vie de patachon qui va le sauver en quelque sorte. On a retrouvé un son dans nos archives qui raconte sur la chaîne Réfaux ce fameux jour de mai 1902.
En ce 8 mai 1902, jeudi de l'Ascension, la capitale de la Martinique est bondée. Il est 8 heures du matin, des familles entières se pressent à la cathédrale, au marché, au port. En quelques minutes, la ville va être rayée de la carte. Une nuée ardente jaillit du volcan tel un lance-flamme. Le nuage incandescent de cendres, mêlé de gaz à 300 degrés, se dirige droit vers la ville. Les 30 000 habitants restent figés dans leur posture, asphyxiés et calcinés. Seul Siparis, prisonnier dans son cachot, survit au prix de profondes brûlures. Tout est mort et détruit.
Et dans son cachot, il va attendre 3 jours les secours. Il prie en attendant la mort parce qu'il est persuadé de mourir. Il est brûlé par les vapeurs, ses vêtements sont collés à sa peau. Et quand on le découvre, il est hagard et il répète les mêmes phrases, des phrases de prière ou des phrases comme ça en créole.
C'est un peu la Pentecôte pour lui. Il parle une langue que personne ne comprend. D'ailleurs, lorsqu'on va le découvrir, les spirotins vont l'adorer comme si c'était un saint laïc. On veut toucher Siparis. Et le cirque Barnum va profiter de l'effervescence pour l'emporter dans le monde entier. On va regarder le corps de cet homme qui exhibe un peu ses stigmates comme un saint jusqu'aux États-Unis. Et vous savez que le dernier jour de Siparis, on est à Panama. Qu'est-ce qui se passe? La montagne pelée se remet à vomir des cendres. C'est la dernière éruption connue dont cet homme mérite quand même qu'on se penche sur cette destinée particulière qui nous parle à la fois des îles, mais je pense que Siparis nous parle d'abord de l'humain, l'humanité souffrante.
Alors, c'est très étonnant parce que, effectivement, quand il se retrouve avec le cirque Barnum, comme un phénomène de foire, il va y avoir un incendie, là encore.
Tout à fait.
Plein de gens vont mourir et lui va être encore rescapé. Donc, on dit, c'est lui qui porte la poisse.
Moi, je pense plutôt que une main invisible, la main divine, est sur Siparis, parce que c'est lui qui restera le témoin de l'humanité.
Et il est frappé par la ségrégation lors d'une tournée aux États-Unis. On le présente comme un singe. Même les Noirs américains lui demandent s'il est un homme ou s'il est un animal.
C'est d'époque.
Ouais. On va laisser la place à notre multiplex francophone, Gaston Poléfa. Déborah Damblon pour la Belgique, ce livre vous fascine.
Ah oui, j'ai été carrément happée par la force de votre roman, Monsieur Effa, par la puissance de votre écriture. J'ai adoré ce voyage et j'ai adoré, comme vous disiez, son humanité. Parce que, à mon sens, vous avez aussi deux qualités qui méritent d'être soulignées parmi toutes les autres, mais qui m'ont touchée parce que je trouve qu'elles sont parfois trop rares en littérature. D'abord, vous n'oubliez pas de nous raconter une histoire, une vraie histoire, passionnante, avec des tas de choses qui se passent. Et puis, vous plantez un décor, mais un vrai décor. Il est juste, il est vivant, il a une odeur, il a une chaleur, il nous transporte, il nous dépayse. Et vraiment, c'est un bonheur absolu.
Content, Gaston Paul. Bill Robinson au Québec, êtes-vous d'accord ?
Ah oui, tout à fait. Moi aussi, là, j'ai été frappé par cette image là d'une fresque historique dont les inspirations prennent source dans une écriture vive. Ce beau livre nous parle bien sûr de l'histoire des Noirs, mais de l'humain aussi dans tout ce qu'il peut être. Alors, ces belles histoires nous sont relatées avec discernement et authenticité. Et à la différence d'une biographie, Monsieur Effa, vous avez aussi pu vous permettre de nous proposer un voyage philosophique qui secoue, émeut et qui porte à la réflexion. Alors, une lecture poignante pour moi.
Et pourtant, Gaston Paul Effa, votre roman est d'un égocentrisme absolu. Je vais tempérer, si je peux me permettre, puisque vous faites de vous un personnage du roman qui va rencontrer, qui va échanger avec Séraphine, la jeune Martiniquaise qui veut rétablir des vérités, mais qui est séduite par votre œuvre. Alors du coup, vous vous servez un peu dans cette histoire. Pourquoi avoir choisi votre nom, Gaston Paul Effa, pour faire un personnage de ce roman?
Vous savez, Flaubert et Madame Bovary... Emma, Madame Bovary, c'est moi. Je pense que lorsqu'on écrit, tout auteur est déjà un personnage de ses livres ou tous les personnages du livre. Et le passage a été pour moi très facile. Je suis dans ce que Einstein appelait du « me voici ». Comment je vois l'écriture, comment je vois le monde et comment je vois l'histoire. Donc je voulais pas me cacher. Les choses se sont passées ainsi.
Oui, sauf que vous vous mettez en scène complètement et que vous racontez une histoire qui a marqué la Martinique, vous vous servez de Cyparis et de ce drame qui reste dans les mémoires en Martinique pour en faire un récit très personnel sur l'identité des Noirs. C'est pas un peu indécent ça, Gaston Paul Effa ?
L'écriture est d'abord quelque chose d'intime. Je ne voulais pas tricher. Les échanges avec Séraphine se sont passés comme tels. Et donc, je ne voulais pas jouer avec le lecteur en me cachant derrière des personnages, des pseudonymes. Ça s'est passé ainsi.
Ça s'est passé ainsi sur ce roman-là,
absolument.
Oui, donc ça s'est pas passé parce que le roman n'était pas sorti. Ça s'est passé sur un autre roman.
Bien sûr, c'est simplement un jeu littéraire. Mmh. Mais les échanges ont vraiment eu lieu.
D'accord.
Donc, lorsque j'épouse ce personnage de Cyparis, qui m'amène à voir autrement la condition humaine, je ne voulais pas dire c'est un autre qui voyait. C'est moi qui vois le monde. Et donc, c'est moi qui raconte. Et je dis les choses telles que je les ai vues.
C'est pas égocentrique, c'est pas indécent.
C'est un peu égocentrique, mais bien sûr, qui parmi les auteurs peut considérer qu'il n'est pas égocentrique? Il faut avoir de l'impudeur d'ailleurs pour écrire le premier
c'est
mot.
C'est ça, de l'impudeur.
De l'impudeur. Un écrivain est quelqu'un qui a transgressé les lois de la société.
Alors vous êtes à fond dans l'introspection, hein, Gaston Paul Effa, parce que vous dites en substance que les Noirs sont les damnés d'un monde infernal, maudits et condamnés à vivre la déchéance. C'est très sombre et Séraphine le révèle d'ailleurs. Ce qui vous permet au passage de vous autocritiquer, parce que c'est Gaston Paul Effa du roman qui dit ça,
bien
qui
sûr.
Est très sombre.
Parce que
et vous n'avez pas l'air d'accord avec lui.
Longtemps,
c'est complètement schizophrène, votre roman.
Ah, complètement,
Gaston.
Complètement, tout le monde. Oui, oui, l'humanité est schizophrène, vous savez, c'est tout cela que nous sommes multiples. Ouais. Et donc, oui, longtemps, j'ai regardé l'histoire comme dans un rétroviseur, j'allais dans l'avenir à travers un rétroviseur. Et je pense que ce roman, comme un peu le sel de l'alchimie, qui est un aimant, quelque chose qui ramène le haut et le bas, qui fait l'unité, ce roman m'a permis de parvenir à quelque chose comme une unité. C'est-à-dire, j'ai compris que si on boit de la douleur, si on respire la douleur, on ne peut transmettre que la douleur. Donc il faut sortir de ce rétroviseur qui nous emprisonne dans un passé. Je pense qu'on réussit sa vie lorsqu'on a réussi à faire des miettes un repas, lorsque des décombres on a fait une cathédrale, lorsqu'on a rassemblé en soi ce qui était part. Et donc ce roman a contribué à me dire que l'humanité africaine, l'humanité souffrante en général, ne peut grandir que si elle a compris que le travail se fait en soi. Et c'est cette descente en soi qui me permet de donner cette vision qui vous paraît égocentrique, mais je pense simplement que c'est une démarche humaine.
En incarnant la peau d'un autre personnage, donc avec Cyparis, qui vous sert de prétexte en fin de compte.
Bien sûr.
Et vous transmettez un problème d'identité, parce que vous révélez ça, que la condition de l'homme noir est une éternelle malédiction. Il y a un débat d'ailleurs entre votre personnage féminin et vous-même. Ça vous a posé un problème? Ça vous pose un problème d'être noir?
Ah, ça ne pose plus du tout un problème.
Est-ce
que vous avez regardé l'icône grecque qui est lumineuse? Est-ce que vous savez d'où ça vient? cette icône, c'est la possibilité pour l'iconographe de libérer toute la lumière qui est emprisonnée dans le noir. Mmh. Si longtemps dans ma vie, j'ai souffert d'être noir, je pense que l'écriture m'a permis de comprendre qu'il y avait un champ secret en moi, un champ secret en toute chose, et qu'il suffisait de lire, d'écouter ce champ secret pour grandir.
Donc quelle est la démonstration là avec Cyparis ? C'est une façon de dire que malgré les malédictions, malgré les souffrances, on peut toujours dépasser sa condition, on peut toujours sortir quelque part.
Vous l'avez compris, ouais. Bien sûr. Il suffit simplement dans le silence, la contemplation, la méditation, de s'écouter, de dépasser ce moi qui nous empêche de sortir, qui est comme une balustrade, et de descendre dans quelque chose que j'appelle le soi. Être soi-même. Je pense que c'est cela qui nous attend. Et la joie est de cet ordre-là.
Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Vous le savez, Gaston Poléfa, Dominique Bressoux, en Suisse. À vous l'honneur cette semaine.
Alors, pour entrer dans ce roman extrêmement dense, en fait, il faut accepter de se promener dans une sorte de galerie des glaces, où les reflets des réalités sont perpétuellement en interaction les uns avec les autres. Mmh. Ce livre est très original, et si on accepte de ne pas tout comprendre du premier coup, on se délecte de cette écriture généreuse, un peu magique, et qui nous donne des clés pour acquérir la liberté.
Voilà, vous avez parfaitement résumé, Gaston Poléfa. Soupir de soulagement. Voilà, vous avez conquis nos libraires, tout comme Jean-Christophe Ruffin. C'est la fête, hein, cette semaine dans la librairie francophone. Merci beaucoup, Gaston Poléfa. C'est toujours
Emmanuel.
Un plaisir de vous recevoir ici. Le Miraculé de Saint-Pierre est paru aux éditions Gallimard dans la collection Continent Noir.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone avec le duo français High Cowboy.
J'ai de l'or, 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 tout plein le corps. C'est pour ça que je danse, c'est pour ça que je mords, c'est pour ça que j'y pense.
J'ai de l'or, interprété par High Cowboy, à retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Eric Morin, Djoubaka à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France, Martine Béguin-Follet et Annick Chouin en Suisse, René Mikkels avec Valérie Le Put en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons donc au Salon du Livre de Genève en public avec Louis-Philippe d'Alembert, Louis Hamelin, Jérôme Kerviel et un anniversaire, entre autres, vous verrez. On vous attend nombreux sur le plateau de la RTS vendredi à 14h. Bonne semaine, bon week-end, salut.